Une mode s'est répandue dans notre société depuis un certain temps déjà. Lorsque vous achetez un film, à la fin vous avez un supplément « behind the scene ». Et dans ce supplément, vous pouvez voir des séquences qui sont tournées, qui vous expliquent comment certaines parties du film ont été faites. On vous explique les effets spéciaux, on vous explique les techniques qui ont été employées pour filmer certains passages particulièrement difficiles. Que ce soit un film ou un documentaire, vous avez à la fin toutes ces séquences qui sont généralement plus intéressantes que le film lui-même et qui vous disent comment il a été fait. Vous voyez derrière la scène. Ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder derrière la scène d'un événement que vous connaissez bien, parce que vous le connaissez par les Écritures, c'est l'Exode. L'Exode est un événement extrêmement important dans les Écritures parce qu'il est utilisé comme image du salut. La libération de l'Égypte est une image qui représente ce salut en Jésus-Christ. Et souvenez-vous, l'Exode commence avec la fête de Pâques, où Jésus est au centre de cette fête pour faire comprendre qu'il est en réalité l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, se trouvent les 10 commandements. Les 10 commandements commencent encore une fois en rappelant qui est l'Éternel, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et pour nous faire comprendre que l'obéissance aux commandements est en réalité la conséquence du fait que nous avons été sauvés gratuitement en Jésus-Christ. Quand vous prenez le livre du Deutéronome, au chapitre 5, vous vous rendez compte que le commandement du sabbat, le 4e commandement, est expliqué par le fait que Dieu a libéré son peuple de l'Égypte. Encore une fois, pour faire comprendre que le repos que l'on a du sabbat, le 7e jour, c'est ce repos que l'on a lorsqu'on a reçu le salut qui nous est donné gratuitement en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, de la même manière, cette image est utilisée de plusieurs façons pour nous faire comprendre comment nous sommes libérés du péché grâce à ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Donc l'Exode est important. Et j'aimerais ce matin, au-delà de ce que nous connaissons par le texte biblique lui-même, vous donner l'arrière de la scène de l'Exode. 15e siècle avant Jésus. À cette époque-là, règne sur l'Égypte un roi qui s'appelle Toutmès Ier ou Toutmosis Ier. Mais il y a une crise en Égypte. Ce n'est pas une crise économique, les choses vont bien, la situation est favorable, mais une crise dans le palais. Parce que le roi Toutmès Ier n'a pas de fils. Or, en Égypte, c'est seulement les garçons qui montent sur le trône. Toutmès Ier n'a donc pas de successeur. Il a des filles seulement. L'aînée de ses filles s'appelle Hatshepsut, mais ne peut pas monter sur le trône. Alors, lorsque Toutmès Ier va mourir, on va choisir un garçon qu'il a eu par une concubine et on va le mettre sur le trône à sa place. On va l'appeler Toutmès II. Mais Toutmès II n'est pas vraiment le roi dans la ligne légitime des rois, parce qu'il n'est pas le fils de la femme principale du roi. Et pour légitimer sa position, alors on va le marier avec Hatshepsut, qui elle est la fille du roi. En fait, Hatshepsut va marier son demi-frère. C'est une pratique qui était courante dans ce temps-là. Les mariages se faisaient par nécessité, par choix politique. Et c'est ainsi que Toutmès II est monté sur le trône, marié à sa demi-sœur. Seulement, la crise a continué parce que Toutmès II et Hatshepsut n'ont pas de garçons. Ils n'ont que des filles. Alors vous comprenez que Hatshepsut a un souci. La crise continue, il va donc falloir trouver une solution. Et alors qu'un jour, elle est sur le bord du fleuve avec ses servantes pour se baigner, elle trouve un panier avec un bébé dedans. Mais ça, c'est extraordinaire. Quand vous vous promenez au bord d'une rivière, vous trouvez régulièrement un panier avec un bébé dedans, vous ? Alors, elle aussi, elle voit là un miracle extraordinaire. Alors, elle va prendre ce bébé, l'adopter, pour qu'elle ait enfin un garçon, qu'elle ait au moins un fils. Parce qu'elle sent que la crise va continuer et qu'il n'y aura de nouveau pas de garçon à mettre sur le trône. Maintenant, Thoutmès II n'est pas un homme en bonne santé. Il ne va pas vivre longtemps. Après 2 ou 3 ans de règne, il va mourir. Et de nouveau, la question se pose. Qui va-t-on mettre sur le trône ? Hatshepsut n'a pas de fils qui soit en âge de régner. Cet enfant qu'elle a trouvé flottant sur le Nil, il est encore tout petit. Alors, on va mettre sur le trône, encore une fois, un fils de Thoutmès II, mais qu'il a eu par une concubine. Ce n'est pas le fils de Hatshepsut. Elle n'a pas trouvé ça non plus à son goût, mais il n'y a pas de choix. On va l'appeler Thoutmès III. Mais Thoutmès III est un enfant. Donc, Hatshepsut va être co-régente. Elle va régner en attendant qu'il soit devenu adulte et qu'il puisse prendre le trône tout seul. Seulement, Hatshepsut trouve que le pouvoir est intéressant. Alors elle va le garder. Et lorsque Thoutmès III serait en âge d'assumer la responsabilité de roi tout seul, elle va elle-même volontairement indiquer à tout le monde que le pharaon, c'est elle. Elle va même prendre les habits masculins des pharaons. Elle va porter la barbe postiche des pharaons. Et Thoutmès III va rester dans l'ombre. Elle va l'envoyer faire des campagnes militaires à droite, à gauche. Elle va l'envoyer hors du pays le plus souvent possible. Et elle va tenir l'Égypte dans sa main de fer. Elle va le faire toute sa vie d'ailleurs. Maintenant, l'histoire de Moïse, qu'elle a trouvée là, dans le Nil, est extrêmement importante parce qu'elle a un espoir pour cet enfant-là. D'ailleurs, on apprend dans le texte de l'Exode, au chapitre 2 et au verset 10, il nous est dit « Quand il eut grandi, elle, c'est la maman de Moïse qui l'a sevré, l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse parce que, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. » Elle va appeler cet enfant Moïse. Vous avez remarqué, c'est elle, la princesse, qui va donner à cet enfant son nom. Ce n'est pas sa mère. Et en effet, on considère que Moïse est un nom hébreu, mais Moïse est un nom égyptien. Il a été donné par sa mère adoptive, la princesse Hatshepsut. Et ce nom veut dire « tiré de », « issu de » et donc « fils de ». Maintenant, le Nil qui coule du sud vers le nord et qui traverse toute l'Égypte est considéré comme un dieu. 1000 ans plus tard, l'écrivain grec Hérodote va dire « l'Égypte est un don du Nil ». Et dans un sens, c'est vrai, parce que c'est grâce aux crues du Nil que la terre va être fertilisée sur ses bords et va permettre la culture dans une zone qui autrement serait complètement désertique. Le Nil qui coule donc du sud vers le nord est considéré par les Égyptiens comme un dieu. Alors réfléchissez, le soleil se lève à l'est, c'est le dieu Ra, et c'est le Nil qui lui donne naissance. Et le soleil va se coucher à l'ouest, et il va être englouti par le Nil. Par conséquent, tout vient du Nil et tout y retourne. Les dieux dépendent aussi du Nil. Ils naissent du Nil et ils meurent dans le Nil. Et voilà que Hatshepsut trouve cet enfant sur le Nil. Mais cet enfant, c'est un don des dieux. C'est le don des dieux pour qu'il succède et qu'il monte sur le trône. Le fils qu'elle n'a pas eu, les dieux lui ont donné. D'ailleurs, les pharaons de ce temps-là aimaient se donner une origine divine. Ils aimaient dire et prétendre qu'ils étaient fils des dieux, mais ça leur donnait une autorité divine sur leur peuple. Et les noms qu'ils choisissaient trahissaient d'ailleurs cette idée-là. Hatshepsut va l'écrire sur un des obélisques de Karnak. Elle va dire qu'elle est la fille du dieu Amon-Ra, le dieu soleil. Et dans les noms que ces pharaons vont prendre, cette idée qu'ils sont fils des dieux va ressortir d'une manière très forte. On va d'ailleurs retrouver dans leur nom le même nom que celui qui a été donné à cet enfant, Moïse. Regardez par exemple, Toutmès ou Toutmosis. La dernière partie du nom, c'est Moïse. Autrement dit, Toutmès veut dire fils du dieu Thoth. Ou bien Ramsès, Ramos. La fin du nom, c'est Moïse. C'est-à-dire fils du dieu Ra, le dieu soleil. Hamos, Hamosis. Même chose, la fin du nom, c'est Moïse, fils de, fils du dieu La, une divinité lunaire. Et ainsi de suite. Ils aimaient se donner un nom indiquant par là qu'ils étaient les fils des divinités de l'Égypte. Alors voilà, Toutmès II va mourir, on va mettre sur le trône ce jeune enfant, Toutmès III, et Hatshepsut va régner, va s'arranger pour que Toutmès III n'ait pas de place dans le royaume. Elle va prendre le pouvoir et elle va le garder. Elle va le garder finalement jusqu'à sa mort. Remarquez que, entre-temps, cet enfant qui est pris sur le fleuve va grandir, mais il ne va pas vraiment bien s'intégrer au système religieux de l'endroit. Il va refuser, lui, d'être le fils de Ra ou de Thoth ou de qui que ce soit d'autre. Et un jour, il va tuer un Égyptien. C'est trop. Moïse devra fuir. Fuir devant probablement sa belle-mère, sa mère adoptive, qui est Pharaon. Fuir peut-être devant son rival, Toutmès III, qui a peut-être le même âge que lui. En tout cas, Moïse doit fuir. Et Moïse ne montera pas sur le trône de l'Égypte. Hatshepsut tient l'Égypte dans sa main jusqu'au jour où elle va mourir. Cette femme, avec le temps, va devenir obèse et elle va mourir vraisemblablement d'un cancer des os. Elle disparaît tout d'un coup de l'histoire de l'Égypte. Enfin, Toutmès III va pouvoir régner tout seul. Alors il continue les travaux de construction de ses prédécesseurs. Et il se passe quelque chose d'étrange. Quelque chose de vraiment curieux, c'est que 20 ans après la mort d'Hatshepsut, tout d'un coup, Toutmès va faire enlever tous les noms de cette femme, de tous les bas-reliefs et de tous les monuments de l'Égypte. Il va faire marteler son visage qui est sur les représentations, les statues, les bas-reliefs. Tout d'un coup, 20 ans après qu'elle soit morte. Alors les archéologues se sont demandé, mais enfin, s'il avait été si content de se débarrasser d'elle, il aurait fait ça tout de suite après sa mort. Mais pourquoi donc fait-il cela 20 ans après ? 20 ans après, il essaye d'effacer le nom d'Hatshepsut, de partout. La réponse, en fait, se trouve dans le livre de l'Exode. Parce que vous vous en souvenez, c'est le moment où Moïse va être envoyé par Dieu pour aller chercher son peuple en Égypte. Vous connaissez cette discussion entre Moïse et Dieu au buisson ardent, où finalement Dieu va donner à Moïse le gage de son appui total dans la mission qu'il lui donne. Et Moïse, avec Aaron, se rend au palais de Pharaon. Et il trouve dans le siège du roi d'Égypte, à ce moment-là, quelqu'un qu'il connaît très bien, Thoutmès III. Son rival, finalement. Et là, Thoutmès III voit arriver dans la salle du trône un homme qu'il connaît très bien. Parce qu'en fait, cet homme qui vient en habit de berger, c'est celui qui devrait être à sa place. Et qui a en réalité plus de légitimité au trône que lui. Et là, Thoutmès III sait à qui il a affaire. Mais il découvre maintenant un personnage qu'il ne connaissait pas. Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, au chapitre 7, on apprend que Moïse vient au palais et qu'il demande à Thoutmès III, le nom de ce pharaon ne nous est pas donné dans le texte biblique, vous le comprenez, mais il demande à Pharaon, « Laisse aller mon peuple ». Le pharaon comprend que Moïse revient et pour lui, c'est une menace énorme. Regardez bien, devant la résistance de cet homme qu'il connaît, Moïse dit à Aaron, « Jette ton bâton ». Et il jette son bâton par terre, et son bâton devient un serpent. Ça, ce n'est pas un problème, parce que Thoutmès III est entouré par tous ses magiciens. Combien y en a-t-il? Je ne sais pas, mais un bon nombre, qui eux aussi ont un bâton, qui le jettent, et leur bâton devient aussi des serpents. Mais le bâton de Moïse va manger tous les serpents de ces magiciens-là. Or, le serpent, c'est le protecteur du pharaon d'Égypte. Vous avez vu les images que l'on a de ces pharaons où ils ont le cobra sur leur couronne. Voilà que ces magiciens sont devant tout le monde déshonorés. Le bâton de Moïse a mangé leur serpent. Et ces magiciens qui sont venus avec leur bâton, leur signe d'autorité, le bâton par lequel ils font tous les miracles, les prodiges, leur magie, ce bâton a disparu. Ils repartent à la maison, les mains dans les poches, sans bâton. Qui sont-ils, ces gens qui sont venus et qui repartent sans leur bâton? Où est ton bâton? Silence, Moïse l'a mangé. Vous comprenez la pression énorme que ce miracle de Moïse dans le palais royal va porter sur Thoutmès III. Alors Thoutmès III se dit, cette fois-ci, il faut que j'intervienne. Il va faire retirer le nom d'Hatshepsut de tout son royaume, le plus possible, de manière à ce que Moïse ne soit plus le fils d'Hatshepsut. De manière à retirer à Moïse toute légitimité au trône. Parce que si on enlève le nom d'une personne, on lui enlève en même temps la possibilité d'aller dans l'au-delà. On enlève son existence. Et Thoutmès III ne veut pas seulement enlever le souvenir d'Hatshepsut, il veut aussi enlever son pouvoir. Et par conséquent, retirer à Moïse toute légitimité au trône. D'ailleurs, les prêtres de ce temps-là vont craindre que Thoutmès III veuille aussi détruire la momie d'Hatshepsut. Alors, ils vont la prendre, ils vont aller la chercher dans ce grand temple funéraire de Deir el-Bahari qu'elle a construit. Et ils vont la cacher dans la vallée des rois, dans une caverne, 130 mètres sous terre. Ce n'est pas un tombeau royal de luxe comme les autres. C'est véritablement une caverne et on va poser la momie de cette reine à même le sol. Vous comprenez que Moïse devient véritablement une menace importante pour Thoutmès III. Ce qui est intéressant et que les archéologues ont noté, c'est que la tombe de Thoutmès III est tout à fait curieuse. Elle a été, bien entendu, comme la tombe de tous ses rois, préparée par lui-même à l'avance. Mais une partie de cette tombe est terminée à la hâte. Une partie est bien préparée, fignolée. Les finitions sont bien faites, les peintures propres. Mais une partie de cette tombe est faite comme s'il avait fallu la finir en vitesse. Souvenez-vous maintenant, les plaies vont tomber sur l'Égypte. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et puis, finalement, Thoutmès III va dire à Moïse et à son peuple, « Sortez d'ici, je ne veux plus vous voir. Vous avez fait assez de dégâts ici. » Alors ils s'en vont, après avoir célébré la Pâque. Mais en discutant avec ses conseillers, Thoutmès III se dit, « Non, ça ne marche pas cette affaire. La main-d'œuvre à bon marché vient de partir, qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors il sort son armée et il part pour aller chercher ce peuple qui se trouve devant la mer Rouge. Et vous vous souvenez comment Dieu va engloutir l'armée de Pharaon, Pharaon avec, dans la mer Rouge qui se referme après avoir laissé passer le peuple de l'autre côté. Thoutmès III ne pensait pas mourir si tôt. Et l'Égypte non plus. On va donc terminer en toute hâte le tombeau de Thoutmès III. On va mettre son corps, si on l'a retrouvé, dans ce tombeau, et si on ne l'a pas retrouvé, on va mettre un substitut quelconque. Mais il faut qu'aux yeux de l'Égypte, le pharaon soit momifié et enterré. Voilà pourquoi cette tombe curieuse donne le signe qu'elle a dû être terminée rapidement. Voilà l'histoire de derrière la scène de l'Exode. La venue de Moïse a véritablement été un défi. Mais il y a quelque chose dans le nom de Moïse qui m'intéresse. On l'a vu tout à l'heure, Moïse est un nom égyptien, ce n'est pas un nom hébreu pour commencer. Il va devenir un nom hébreu, on va l'appeler Moshe. Mais c'est d'abord un nom égyptien qui veut dire « descendant de »,« sorti de », »,« fils de ». Mais vous avez remarqué, dans le nom de Moïse, il n'est pas dit de qui il est le fils. Les pharaons avaient dit qu'ils étaient les fils du dieu Thoth ou du dieu Ra. Mais lui, il est simplement fils de Moïse. C'est qu'en réalité, Moïse ne veut pas être fils d'un dieu égyptien. Regardez dans l'Épître aux Hébreux, ça nous est dit clairement quelle est la mentalité de Moïse. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 24, il est dit ceci. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils d'un dieu païen. Un jour, Moïse doit se sauver parce qu'il a tué un homme. Le peuple hébreu savait qu'il était celui que Dieu avait choisi pour le libérer. Dieu avait envoyé des anges qui avaient parlé aux anciens du peuple pour les avertir que Moïse était le libérateur qu'il avait choisi. Lui-même, par révélation, avait appris qu'il serait le libérateur du peuple hébreu. Alors il s'était dit, bon, il faut que je prenne les choses en main, allons-y. Et il a voulu le faire à sa manière. Il a tué un Égyptien. Et voilà que le plan de libération que lui avait dans son esprit s'effondre. Il s'en va. Il faudra 40 ans dans le désert pour que Moïse sache de qui il est le fils, pour qu'il apprenne qui est son père. Souvenez-vous, 40 ans plus tard, Moïse garde les moutons, il est là dans le désert et tout d'un coup il voit un buisson qui brûle mais qui ne brûle pas. Et de ce buisson, Jésus lui parle et l'appelle à son service. Et Moïse dit non, moi je ne peux pas. Alors, et c'est ma traduction du texte, vous le comprenez, Jésus lui dit enfin. Parce que quand tu pensais pouvoir, tu ne pouvais pas. Maintenant que tu ne peux pas, je peux. Moïse avait mis une croix sur le ministère qu'il avait reçue. Moïse avait, pendant ses 40 ans, beaucoup de choses à apprendre. Moïse était sorti des eaux, sorti d'eux. Mais de qui était-il le fils? Ce jour-là, Moïse apprend qu'il est le fils de Dieu. Dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 227, 248 en anglais, est écrit ce paragraphe. Derrière un rempart de montagne, Moïse était seul avec Dieu, les yeux et l'esprit délivrés du spectacle éblouissant des temples égyptiens, comme de l'erreur et des superstitions de leur culte, il pouvait contempler en paix la solennelle majesté des collines éternelles, la grandeur de Dieu et par contraste, le néant de l'idolâtrie. Il lisait partout le nom du Créateur, partout il se sentait enveloppé de sa présence et couvert de sa protection. Peu à peu, dans l'austère simplicité de la vie du désert, sa suffisance, son orgueil, l'amour du faste et du confort disparurent. Il devint patient, brave, modéré, enraciné dans sa foi au puissant de Jacob. Il finit par devenir un homme fort doux, plus qu'aucun homme ne fut sur la terre. Il a fallu 40 ans pour que Moïse devienne un fils de Dieu. Certes, il était sorti des eaux, mais il y avait encore un chemin à faire pour qu'il laisse son Père, Dieu lui-même, changer son caractère et changer sa vie. Nous sommes aussi sortis des eaux. La plupart d'entre nous avons vécu l'expérience du baptême. Et que nous disent les Écritures par rapport à cette expérience du baptême? Regardez avec moi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Épître aux Galates, chapitre 3. Au verset 26, il est écrit ceci. Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Autrement dit, en étant baptisé au nom de Jésus, on devient un fils de Dieu, une fille de Dieu. Nous sommes autrement dit des héritiers légitimes de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, vous vous en souvenez, l'apôtre reprend ici une image pour nous faire comprendre qui est ce Jésus qui est venu. Il est dit au début, Évangile selon Jean, chapitre 1er, « Au commencement était la parole était avec Dieu ». Elle était Dieu. Et cette parole va venir en chair, nous dit le texte. Jésus est la parole vivante. Et un peu plus loin, comparant Jésus à la lumière, il est dit, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu. » Mais ce n'est pas le tout, parce qu'après le baptême, il y a un processus de croissance qui doit se mettre en place. Nous parlons au baptême de la nouvelle naissance. Mais heureusement, les bébés qui naissent ne restent pas petits, ils grandissent. Qu'en est-il des enfants qui naissent spirituellement dans l'Église? Restent-ils bébés toute leur vie ou sont-ils eux aussi appelés à grandir? Jésus va essayer de faire comprendre cela à Nicodème. Vous vous en souvenez, dans cette classe de rattrapage du soir que Jésus donne à Nicodème, Nicodème était venu lui parler d'égal à égal. Et puis Jésus va lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il a encore besoin d'apprendre. Dans l'évangile de Jean, quelques pages plus loin, au chapitre 3, au verset 5, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, Sans aucun doute, Jésus parle là du baptême et de tout ce qui va avec, mais il lui dit naître aussi de l'Esprit, parce que c'est par la puissance de l'Esprit que cette croissance va se faire, pour ne pas rester justement un bébé toute sa vie. Sauver des eaux, délivrer du péché, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que Dieu nous donne la grâce d'être délivrés non seulement du péché, mais de l'esclavage du péché. Ça, c'est une œuvre que Dieu veut accomplir en profondeur. L'apôtre Paul veut enseigner aux églises la même leçon. Regardez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, ce qu'il écrit à cette église. Épître aux Romains, chapitre 6, vous vous souvenez que ce chapitre est consacré au baptême précisément. Au début, il va dire, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» L'apôtre va ici parler du baptême et il va dire au verset 6, Romains chapitre 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sortis des eaux, renaître de nouveau, c'est une chose et c'est important. Mais il y a un processus qui doit suivre, qui doit permettre au Seigneur de nous délivrer de l'esclavage du péché. Le contrôle du péché doit être brisé. Nous devons arriver à cette situation de fils et de filles en Jésus-Christ qui ne sont plus esclaves du péché. Il a fallu 40 ans à Moïse dans le désert pour apprendre cette leçon et pour grandir. Et il faudra de nouveau 40 ans pour ce peuple, aussi dans le même désert, pour apprendre la même leçon de croissance. Eux aussi sont sortis des eaux. Eux aussi ont traversé la mer Rouge, qui est une image du baptême. Mais eux aussi ont dû traverser le désert pendant 40 ans pour apprendre à devenir libres de l'esclavage du péché. Nous avons besoin, nous aussi, non seulement de sortir des eaux du baptême, libérés en Jésus-Christ, mais nous avons aussi besoin de sortir libérés de l'esclavage du péché. Autrement dit, d'avoir une vie qui est intentionnellement une vie dans laquelle ce qui appartient au monde est mis de côté. Alors, si intentionnellement nous cherchons à donner à Dieu la possibilité d'accomplir cette transformation en profondeur, une promesse nous est faite. Quelques versets plus loin, toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, un tout petit peu plus loin au verset 11, un texte que vous connaissez et que nous n'avons peut-être pas pris l'habitude de lire comme une promesse. Romains chapitre 6, verset 11, il est dit « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant par Dieu en Jésus-Christ. » Nous sommes appelés à considérer cela comme une action que le Seigneur va faire pour nous, qu'il fait pour nous et qu'il a promis d'accomplir. « Regardez-vous donc maintenant comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Écoutez ce paragraphe tiré du livre « Jésus-Christ » à la page 767 en français, 762 en anglais. La loi exige la justice, une vie juste, un caractère parfait. Or, l'homme ne peut se conformer aux exigences de la sainte loi de Dieu. Mais Christ est venu sur la terre en tant qu'homme, a vécu dans la sainteté et a formé un caractère parfait. Il offre ces choses gratuitement à tous ceux qui veulent le recevoir. Sa vie se substitue à celle des hommes. De cette manière, ils obtiennent la rémission des péchés commis auparavant au temps de la patience de Dieu. Plus encore, le Christ communique aux hommes les attributs mêmes de Dieu. Il façonne le caractère humain à la ressemblance du divin. Ainsi, la justice qu'exige la loi se trouve réalisée chez celui qui croit en Christ. Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce texte, c'est une promesse, c'est un cadeau qui nous est fait. Ce que Jésus a acquis, il veut nous le donner. Autrement dit, nous ne pouvons pas espérer avoir un mode de vie hybride, moitié selon la parole de Dieu, moitié selon le temps d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas espérer avoir ce mode de vie hybride, moitié valeur de Dieu, moitié valeur d'aujourd'hui, et espérer être des enfants légitimes de notre Père Céleste. Le Seigneur a pour nous de grandes ambitions. Est-ce que vous savez quelles sont les ambitions que Dieu a à notre égard ? La Bible le dit. Regardez ce texte avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Et curieusement, ce texte que nous allons lire, il est tiré de cette lettre numéro 7 que Jésus adresse à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée que nous sommes, l'église des derniers temps. Au verset 21, il est dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » La grande ambition que le Seigneur Jésus a pour chacun d'entre nous, c'est de faire de chacun d'entre nous des fils de rois, des fils légitimes qui vont monter sur le trône avec lui, de la même manière qu'il est monté sur le trône de son Père. Il veut faire de chacun de nous des fils et des filles légitimes qui ont droit au trône, pas les enfants de la concubine, pas les enfants de la femme adultère. Non, non. Des enfants légitimes, des vrais fils et des vraies filles. Autrement dit, des enfants qui reproduisent le caractère du roi. Des enfants, des fils et des filles qui ont le calibre d'un roi et qui pourront monter sur le trône avec lui. Il y aura pour cela peut-être une marche dans le désert. Elle durera ce qui sera nécessaire pour que le Seigneur fasse de nous des fils et des filles légitimes du royaume des cieux. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul nous rappelle ce que cela implique. Épître aux Colossiens, chapitre 3, au verset 9 et 10, il est dit ceci. Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Deux choses, vous avez vu, dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, revêtu l'homme nouveau, pour devenir à l'image de celui qui nous a créés. Sorti des eaux, fils de Dieu. Maintenant, le roi des rois va bientôt revenir. Il a promis qu'il reviendrait chercher son héritage. Et lorsque Jésus va revenir, il va revenir chercher tous ses enfants pour qu'ils puissent aussi s'asseoir sur son trône avec lui dans la vie éternelle. Nous voudrions chacun être parmi eux. La question maintenant est de savoir si nous sommes véritablement des enfants légitimes, des fils et des filles légitimes du royaume des cieux, parce que par sa grâce, le Seigneur a pu faire de nous des fils et des filles à sa ressemblance. Amen.